Baudelaire, les nuages et l'infini.
Lettre de Baudelaire à sa mère. 26 août 1864. Je m'ennuie à un degré que tu ne peux pas deviner dans cette chambre glacée et toute blanche. Et quoique généralement j'ai peur de tes lettres, parce que je crains toujours d'y trouver des serments et des reproches que je me fais si bien à moi-même, j'attends toujours impatiemment ces mêmes lettres. Tu me dirais les choses les plus désagréables, que j'y prendrais encore plaisir.
L'étranger. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère?
Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
Tes amis?
Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.
Ta patrie?
J'ignore sous quelle latitude elle est située.
La beauté?
Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.
L'or?
Je le hais, comme vous haïssez Dieu.
Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?
J'aime les nuages. Les nuages qui passent, là-bas. Là-bas. Les merveilleux nuages.
Bénédiction. Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère, épouvantée et pleine de blasphèmes, crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié. Ah, que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère, plutôt que de nourrir cette dérision? Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères où mon ventre a conçu mon expiation. Puisque tu m'as choisi entre toutes les femmes pour être le dégoût de mon triste mari, et que je ne puis pas rejeter dans les flammes comme un billet d'amour ce monstre rabougri, je ferai rejaillir ta haine qui m'accable sur l'instrument maudit de tes méchancetés, et je tordrai si bien cet arbre misérable qu'il ne pourra pousser ses boutons empestés. Elle ravale ainsi l'écume de sa haine, et ne comprenant pas les desseins éternels, elle-même prépare au fond de la géhenne les bûchers consacrés aux crimes maternels. Pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil, et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange, retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil. Il joue avec le vent, cause avec le nuage, et s'enivre en chantant du chemin de la croix. Et l'esprit qui le suit, dans son pèlerinage, pleure de le voir gai comme un oiseau des bois. Tous ceux qu'il veut aimer l'observent avec crainte, ou bien, s'enhardissant de sa tranquillité, cherchent à qui saura lui tirer une plainte et font sur lui l'essai de leur férocité. Dans le pain et le vin destinés à sa bouche, il mêle de la cendre avec d'impurs crachats. Avec hypocrisie, ils jettent ce qu'ils touchent et s'accusent d'avoir mis leurs pieds dans ses pas. Sa femme va criant sur les places publiques. Puisqu'il me trouve belle et qu'il veut m'adorer, je ferai le métier des idoles antiques que souvent il fallait repeindre et redorer. Et je veux me saouler de nard, d'encens, de myrrhe, de génuflexions, de viandes et de vins pour savoir si je puis, dans un cœur qui m'admire, usurper en riant les hommages divins. et quand je m'ennuierai de ses farces impies, je poserai sur lui ma frêle et forte main, et mes ongles, pareils aux ongles des harpies, sauront jusqu'à son cœur se frayer un chemin. Comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite, j'arracherai ce cœur tout rouge de son sein, et pour rassasier ma bête favorite, je le lui jetterai par terre avec dédain. Vers le ciel, où son œil voit un trône splendide, le poète serein lève ses bras pieux, et les vastes éclairs de son esprit lucide lui dérobent l'aspect des peuples furieux. Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés, et comme la meilleure et la plus pure essence qui prépare les forts aux saintes voluptés. Je sais que vous gardez une place au poète dans les rangs bienheureux des saintes légions et que vous l'invitez à l'éternelle fête des trônes, des vertus, des dominations. Je sais que la douleur est la noblesse unique où ne mordront jamais la terre et les enfers et qu'il faut pour tresser ma couronne mystique imposer tous les temps et tous les univers. Mais les bijoux perdus de l'antique palmyre, les métaux inconnus, les perles de la mer, montées par votre main, ne pourraient pas suffire à ce beau diadème éblouissant et clair, car il ne sera fait que de pure lumière, puisée au foyer saint des rayons primitifs, et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière, ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs.
Les vocations, le spleen de Paris. Dans un beau jardin, où les rayons d'un soleil automnal semblaient s'attarder à plaisir, sous un ciel déjà verdâtre, où des nuages d'or flottaient comme des continents en voyage, quatre beaux enfants, quatre garçons, là de jouer sans doute, causaient entre eux. L'un disait: hier, on m'a mené au théâtre, dans des palais grands et tristes, au fond desquels on voit la mer et le ciel, des hommes et des femmes, sérieux et tristes aussi, mais bien plus beaux et bien mieux habillés que ce que nous voyons partout, parlent avec une voix chantante. Ils se menacent, ils supplient, ils se désolent, et ils appuient souvent leurs mains sur un poignard enfoncé dans leur ceinture. Ah, c'est bien beau! Les femmes sont bien plus belles et bien plus grandes que celles qui viennent nous voir à la maison. Et quoique avec leurs grands yeux creux et leurs joues enflammées, elles aient l'air terribles, on ne peut pas s'empêcher de les aimer. On a peur, on a envie de pleurer, et cependant, l'on est content. Et puis ce qui est plus singulier, cela donne envie d'être habillé de même, de dire et de faire les mêmes choses, et de parler avec la même voix.
Élévation. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers. Par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans t'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. derrière les ennuis et les sombres chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux, celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les deux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes.
La Béatrice. Dans des terrains cendreux, calcinés, sans verdure, comme je me plaignais un jour à la nature, et que de ma pensée, en vaguant au hasard, j'aiguisais lentement sur mon cœur le poignard, je vis en plein midi descendre sur ma tête un nuage funèbre et gros d'une tempête qui portait un troupeau de démons vicieux, semblables à des nains cruels et curieux. À me considérer froidement, ils se mirent, et comme des passants sur un fou qu'ils admirent, je les entendis rire et chuchoter entre eux, en échangeant maints signes et maints clignements d'yeux. Contemplons à loisir cette caricature et cette ombre d'Hamlet imitant sa posture, le regard indécis et les cheveux au vent. N'est-ce pas grand pitié de voir ce bon vivant, ce gueux, cet histrion en vacances, ce drôle, parce qu'il sait jouer artistement son rôle, vouloir intéresser au chant de ses douleurs les aigles, les grillons, les ruisseaux et les fleurs. Et même à nous, auteurs de ces vieilles rubriques, réciter en hurlant ces tirades publiques. J'aurais pu. Mon orgueil aussi haut que les monts recevrait sans bouger le choc de 100 démons. Détourner froidement ma tête souveraine, si je n'eusse pas vu, parmi leurs troupes obscènes, crime qui n'a pas fait chanceler le soleil, la reine de mon cœur, au regard non pareil, qui riait avec eux de ma sombre détresse et leur versait parfois quelques sales caresses.
Les paradis artificiels. Le poème du haschich. Il est des jours où l'homme s'éveille avec un génie jeune et vigoureux. Ses paupières à peine déchargées du sommeil qui les scellait, le monde extérieur s'offre à lui avec un relief puissant, une netteté de contours, une richesse de couleurs admirables. L'homme, gratifié de cette béatitude, malheureusement rare et passagère, se sent à la fois plus artiste et plus juste, plus noble, pour tout dire en un mot. Mais ce qu'il y a de plus singulier dans cet état exceptionnel de l'esprit et des sens, que je puis sans exagération appeler paradisiaque si je le compare aux lourdes ténèbres de l'existence commune et journalière, c'est qu'il n'a été créé par aucune cause bien visible et facile à définir. C'est pourquoi je préfère considérer cette condition anormale de l'esprit comme une véritable grâce, comme un miroir magique où l'homme est invité à se voir en beau, c'est-à-dire tel qu'il devrait et pourrait être. Une espèce d'excitation angélique, un rappel à l'ordre sous une forme complimenteuse. D'ailleurs, cet état charmant et singulier, où toutes les forces s'équilibrent, où l'imagination, quoique merveilleusement puissante, n'entraîne pas à sa suite le sens moral dans de périlleuses aventures, où une sensibilité exquise n'est plus torturée par des nerfs malades, ses conseillers ordinaires du crime ou du désespoir. Cet état merveilleux, dis-je, n'a pas de symptômes avant-coureurs. Il est aussi imprévu que le fantôme. Cette acuité de la pensée, cet enthousiasme des sens et de l'esprit ont dû en tout temps apparaître à l'homme comme le premier des biens. C'est pourquoi, ne considérant que la volupté immédiate, il a, sans s'inquiéter de violer les lois de sa constitution, cherché dans la science physique, dans la pharmaceutique, dans les plus grossières liqueurs, dans les parfums les plus subtils, sous tous les climats et dans tous les temps, les moyens de fuir. Hélas, les vices de l'homme, si pleins d'horreur qu'on les suppose, contiennent la preuve, quand ce ne serait que leur infinie expansion, de son goût de l'infini. Seulement, c'est un goût qui se trompe souvent de route. Il oublie, dans son infatuation, qu'il se joue à un plus fin et plus fort que lui, et que l'esprit du mal, même quand on ne lui livre qu'un cheveu, ne tarde pas à emporter la tête. C'est dans cette dépravation du sens de l'infini que gît, selon moi, la raison de tous les excès coupables, depuis l'ivresse solitaire et concentrée du littérateur, qui, obligé de chercher dans l'opium un soulagement, une douleur physique, et ayant ainsi découvert une source de jouissance morbide, en a fait peu à peu son unique hygiène, et comme le soleil de sa vie spirituelle, jusqu'à l'ivrognerie la plus répugnante des faubourgs, qui, le cerveau plein de flammes et de gloire, se roule ridiculement dans les ordures de la route. Parmi les drogues les plus propres à créer ce que je nomme l'idéal artificiel, laissant de côté les liqueurs qui poussent vite à la fureur matérielle et terrassent la force spirituelle, et les parfums dont l'usage excessif, tout en rendant l'imagination de l'homme plus subtile, épuise graduellement ses forces physiques, les deux plus énergiques substances, celles dont l'emploi est le plus commode et le plus sous la main, sont le haschich et l'opium.
Un voyage à Cythère. Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux et planait librement alentour des cordages. Le navire roulait sous un ciel sans nuages, comme un ange enivré d'un soleil radieux. Quelle est cette île triste et noire? C'est Cythère, nous dit-on, un pays fameux dans les chansons, Eldorado banal de tous les vieux garçons. Regardez après tout. C'est une pauvre terre. Île des doux secrets et des fêtes du cœur. De l'antique Vénus, le superbe fantôme au-dessus de tes mers plane comme un arôme et charge les esprits d'amour et de langueur. Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses, vénérée à jamais par toute nation, où les soupirs des cœurs en adoration roulent comme l'encens sur un jardin de roses ou le recoulement éternel d'un ramier. Cythère n'était plus qu'un terrain des plus maigres, un désert rocailleux troublé par des cris aigres. J'entrevoyais pourtant un objet singulier. Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères où la jeune prêtresse amoureuse des fleurs allait, le corps brûlé de secrètes chaleurs, entrebâillant sa robe aux brises passagères. Mais voilà qu'en rasant la côte d'assez près pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches, nous vîmes que c'était un gibet à trois branches, du ciel se détachant en noir comme un cyprès. De féroces oiseaux perchés sur leurs pâtures détruisaient avec rage un pendu déjà mûr, chacun plantant comme un outil son bec impur dans tous les coins saignants de cette pourriture. Les yeux étaient deux trous, et du ventre effondré, les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses. Et ses bourreaux, gorgés de hideuses délices, l'avaient à coups de bec absolument châtré. Sous les pieds, un troupeau de jaloux quadrupèdes, le museau relevé, tournoyait et rôdait. Une plus grande bête au milieu s'agitait comme un exécuteur entouré de ses aides. Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si beau, silencieusement tu souffrais ces insultes en expiation de tes infâmes cultes et des péchés qui t'ont interdit le tombeau. Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes. Je sentis à l'aspect de tes membres flottants, comme un vomissement remonté vers mes dents, le long fleuve de fiel des douleurs anciennes. Devant toi, pauvre diable, au souvenir si cher, j'ai senti tous les becs et toutes les mâchoires des corbeaux lancinants et des panthères noires qui jadis aimaient tant à triturer ma chair. Le ciel était charmant, la mer était unie. Pour moi, tout était noir et sanglant désormais. Hélas, et j'avais, comme en un suaire épais, le cœur enseveli dans cette allégorie. Dans ton île, ô Vénus, je n'ai trouvé debout qu'un gibet symbolique où pendait mon image. Ah Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût.
Les bienfaits de la Lune. La Lune, qui est le caprice même, regarda par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton berceau et se dit « Cet enfant me plaît ». Et elle descendit moelleusement son escalier de nuages et passa sans bruit à travers les vitres. Puis elle s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mère et elle déposa ses couleurs sur ta face. Tes prunelles en sont restées vertes et tes joues extraordinairement pâles. C'est en contemplant cette visiteuse que tes yeux se sont si bizarrement agrandis et elle t'a si tendrement serré à la gorge que tu en as gardé pour toujours l'envie de pleurer. Cependant, dans l'expansion de sa joie, la lune remplissait toute la chambre comme une atmosphère phosphorique, comme un poison lumineux, et toute cette lumière vivante pensait et disait « Tu subiras éternellement l'influence de mon baiser. Tu seras belle à ma manière. Tu aimeras ce que j'aime et ce qui m'aime, l'eau, les nuages, le silence et la nuit. La mer immense et verte. L'eau uniforme et multiforme, le lieu où tu ne seras pas, l'amant que tu ne connaîtras pas, les fleurs monstrueuses, les parfums qui font délirer, les chats qui se pâment sur les pianos et qui gémissent comme les femmes, d'une voix rauque et douce. Et tu seras aimé de mes amants, courtisé par mes courtisans. Tu seras la reine des hommes aux yeux verts, dont j'ai serré aussi la gorge dans mes caresses nocturnes. De ceux-là qui aiment la mer immense, tumultueuse et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où ils ne sont pas, la femme qu'ils ne connaissent pas, les fleurs sinistres qui ressemblent aux encensoirs d'une religion inconnue, les parfums qui troublent la volonté et les animaux sauvages et voluptueux qui sont les emblèmes de leur folie. Et c'est pour cela, maudite chère enfant gâtée, que je suis maintenant couchée à tes pieds, cherchant dans toute ta personne le reflet de la redoutable divinité, de la fatidique marraine, de la nourrice empoisonneuse de tous les lunatiques.
L'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. L'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. balcon. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi, tous mes plaisirs, ô toi, tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon voilés de vapeurs roses, que ton sein m'était doux, que ton cœur m'était bon. Nous avons dit souvent d'impérissables choses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées, que l'espace est profond, que le cœur est puissant. En me penchant vers toi, reine des adorés, je croyais respirer le parfum de ton sang, que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison, et mes yeux, dans le noir, devinaient tes prunelles, et je buvais ton souffle, ô douceur, ô poison, et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses et revis mon passé blotti dans tes genoux. Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses ailleurs quand ton cher corps et quand ton cœur si doux? Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses. Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes? Comme montent au ciel les soleils rajeunis après s'être lavés au fond des mers profondes.
Les paradis artificiels. Le théâtre de Séraphin. Il arrive quelquefois que la personnalité disparaît et que l'objectivité, qui est le propre des poètes panthéistes, se développe en vous si anormalement que la contemplation des objets extérieurs vous fait oublier votre propre existence et que vous vous confondez bientôt avec eux. Votre œil se fixe sur un arbre harmonieux courbé par le vent. Dans quelques secondes, ce qui ne serait dans le cerveau d'un poète qu'une comparaison fort naturelle deviendra dans le vôtre une réalité. Vous prêtez d'abord à l'arbre vos passions, votre désir ou votre mélancolie. Ces gémissements et ces oscillations deviennent les vôtres. Et bientôt, vous êtes l'arbre. De même, l'oiseau qui plane au fond de l'azur représente d'abord l'immortelle envie de planer au-dessus des choses humaines. Mais déjà, vous êtes l'oiseau lui-même. Je vous suppose assis et fumant. Votre attention se reposera un peu trop longtemps sur les nuages bleuâtres qui s'exhalent de votre pipe. L'idée d'une évaporation lente, successive, éternelle, s'emparera de votre esprit et vous appliquerez bientôt cette idée à vos propres pensées, à votre matière pensante. Par une équivoque singulière, par une espèce de transposition ou de quiproquo intellectuel, vous vous sentirez vous évaporant et vous attribuerez à votre pipe, dans laquelle vous vous sentez accroupi et ramassé comme le tabac, l'étrange faculté de vous fumer.
Femme damnée, à la pâle clarté des lampes languissantes, sur de profonds coussins tout imprégnés d'odeurs, Hippolyte rêvait aux caresses puissantes qui levaient le rideau de sa jeune candeur. Elle cherchait, d'un œil troublé par la tempête, de sa naïveté, le ciel déjà lointain, ainsi qu'un voyageur qui retourne la tête vers les horizons bleus dépassés le matin. De ses yeux amortis, les paresseuses larmes, l'air brisé, la stupeur, la morne volupté, ses bras vaincus jetés comme de vaines armes, tout servait, tout paraît sa fragile beauté. Étendue à ses pieds, calme et pleine de joie, Delphine la couvait avec ses yeux ardents, comme un animal fort qui surveille une proie après l'avoir d'abord marquée avec les dents. Beauté forte à genoux devant la beauté frêle. Superbe, elle humait voluptueusement le vin de son triomphe et s'allongeait vers elle, comme pour recueillir un doux remerciement. Elle cherchait dans l'œil de sa pâle victime le cantique muet que chante le plaisir et cette gratitude infinie et sublime qui sort de la paupière ainsi qu'un long soupir. Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses ? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir ? Mes baisers sont légers, comme ces éphémères qui caressent le soir les grands lacs transparents, et ceux de ton amant creuseront leurs ornières comme des chariots ou des socs déchirants. Ils passeront sur toi comme un lourd attelage de chevaux et de bœufs aux sabots sans pitié. Hippolyte, ô ma sœur, tourne donc ton visage. Toi, mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié, tourne vers moi tes yeux pleins d'azur et d'étoiles. Pour un de ces regards charmants, baume divin, des plaisirs plus obscurs, je lèverai les voiles et je t'endormirai dans un rêve sans fin. Mais Hippolyte, alors, levant sa jeune tête, « Je ne suis point ingrate et ne me repens pas. Ma Delphine, je souffre et je suis inquiète, comme après un nocturne et terrible repas. Je sens fondre sur moi de lourdes épouvantes et de noirs bataillons de fantômes épars qui veulent me conduire en des routes mouvantes qu'un horizon sanglant ferme de toutes parts. Avons-nous donc commis une action étrange ? Explique, si tu peux, mon trouble et mon effroi, je frissonne de peur quand tu me dis « Mon ange, et cependant je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi, ma pensée, toi que j'aime à jamais, ma sœur d'élection, quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. » Delphine secouant sa crinière tragique, et comme trépignant sur le trépied de fer, l'œil fatal répondit d'une voix despotique « Qui donc devant l'amour ose parler d'enfer ? Maudit soit à jamais le rêveur inutile qui voulut le premier dans sa stupidité, s'éprenant d'un problème insoluble et stérile, ô chose de l'amour, mêlée l'honnêteté. Celui qui veut unir dans un accord mystique l'ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour, ne chauffera jamais son corps paralytique à ce rouge soleil que l'on nomme l'amour. Va, si tu veux, chercher un fiancé stupide. Cours offrir un cœur vierge ses cruels baisers et pleine de remords et d'horreur et livide. Tu me rapporteras tes seins stigmatisés. On ne peut ici-bas contenter qu'un seul maître. » Mais l'enfant, épanchant une immense douleur, cria soudain « Je sens s'élargir dans mon être un abîme béant. Cet abîme est mon cœur, brûlant comme un volcan, profond comme le vide. Rien ne rassasira ce monstre gémissant et ne rafraîchira la soif de l'Euménide qui, la torche à la main, le brûle jusqu'au sang. Que nos rideaux fermés nous séparent du monde et que la lassitude amène le repos. Je veux m'anéantir dans ta gorge profonde et trouver sur ton sein la fraîcheur des tombeaux. Descendez, descendez, lamentable victime. Descendez le chemin de l'enfer éternel. Plongez au plus profond du gouffre où tous les crimes, flagellée par un vent qui ne vient pas du ciel, bouillonne pêle-mêle avec un bruit d'orage. Ombre folle, courez au but de vos désirs. Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage, et votre châtiment naîtra de vos plaisirs. Jamais un rayon frais n'éclaira vos cavernes. Par les fentes des murs, des miasmes fiévreux filtrent en s'enflammant ainsi que des lanternes. et pénètre vos corps de leurs parfums affreux. L'âpre stérilité de votre jouissance altère votre soif et roidit votre peau, et le vent furibond de la concupiscence fait claquer votre chair ainsi qu'un vieux drapeau. Loin des peuples vivants, errante, condamnée, à travers les déserts, courez comme les loups, faites votre destin, âme désordonnée, et fuyez l'infini que vous portez en vous.
Spleen. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris, quand la pluie, étalant ses immenses traînées d'une vaste prison, imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.
L'invitation au voyage. Il est un pays superbe, un pays de cocagne, dit-on, que je rêve de visiter avec une vieille amie. Pays singulier, noyé dans les brumes de notre nord et qu'on pourrait appeler l'Orient de l'Occident, la Chine de l'Europe, tant la chaude et capricieuse fantaisie s'y est donnée carrière, tant elle l'a patiemment et opiniâtrement illustré de ses savantes et délicates végétations. Un vrai pays de cocagne, où tout est beau, riche, tranquille, honnête, où le luxe a plaisir à se mirer dans l'ordre, où la vie est grasse et douce à respirer, d'où le désordre, la turbulence et l'imprévu sont exclus, où le bonheur est marié au silence, où la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à la fois, où tout vous ressemble, mon cher ange. Tu connais cette maladie fiévreuse qui s'empare de nous dans les froides misères, cette nostalgie du pays qu'on ignore, cette angoisse de la curiosité. Il est une contrée qui te ressemble, où tout est beau, riche, tranquille et honnête, où la fantaisie a bâti et décoré une Chine occidentale, où la vie est douce à respirer, où le bonheur est marié au silence. C'est là qu'il faut aller vivre. C'est là qu'il faut aller mourir. Oui, c'est là qu'il faut aller respirer, rêver et allonger les heures par l'infini des sensations. Un musicien a écrit l'invitation à la valse. Quel est celui qui composera l'invitation au voyage qu'on puisse offrir à la femme aimée, à la sœur d'élection ? Oui, c'est dans cette atmosphère qu'il ferait bon vivre. Là-bas, où les heures plus lentes contiennent plus de pensées, où les horloges sonnent le bonheur avec une plus profonde et plus significative solennité. Sur des panneaux luisants ou sur des cuirs dorés et d'une richesse sombre, vivent discrètement des peintures béates, calmes et profondes, comme les âmes des artistes qui les créèrent. Les soleils couchants qui colorent si richement la salle à manger ou le salon sont tamisés par de belles étoffes ou par ces hautes fenêtres ouvragées que le plomb divise en nombreux compartiments. Les meubles sont vastes, curieux, bizarres, armés de serrures et de secrets comme des âmes raffinées. Les miroirs, les métaux, les étoffes, l'orfèvrerie et la faïence y jouent, pour les yeux, une symphonie muette et mystérieuse. Et de toutes choses, de tous les coins, des fissures des tiroirs et des plis des étoffes, s'échappe un parfum singulier, un revenez-y de Sumatra, qui est comme l'âme de l'appartement. Un vrai pays de cocagne, te dis-je, où tout est riche, propre et luisant, comme une belle conscience, comme une magnifique batterie de cuisine, comme une splendide orfèvrerie, comme une bijouterie bariolée. Les trésors du monde y affluent, comme dans la maison d'un homme laborieux et qui a bien mérité du monde entier. Pays singulier, supérieur aux autres, comme l'art l'est à la nature, où celle-ci est réformée par le rêve, où elle est corrigée, embellie, refondue. Qu'ils cherchent encore, qu'ils reculent sans cesse les limites de leur bonheur, ces alchimistes de l'horticulture, qu'ils proposent des prix de 60 et de 100 000 florins pour qui résoudra leurs ambitieux problèmes. Moi, j'ai trouvé ma tulipe noire et mon dahlia bleu. Fleur incomparable, tulipe retrouvée, allégorique dahlia. C'est là, n'est-ce pas, dans ce beau pays si calme et si rêveur qu'il faudrait aller vivre et fleurir. Ne serais-tu pas encadré dans ton analogie ? Et ne pourrais-tu pas te mirer, pour parler comme les mystiques, dans ta propre correspondance ? Des rêves, toujours des rêves. Et plus l'âme est ambitieuse et délicate, plus les rêves l'éloignent du possible. Chaque homme porte en lui sa dose d'opium naturel, incessamment sécrétée et renouvelée. Et de la naissance à la mort, combien comptons-nous d'heures remplies par la jouissance positive, par l'action réussie et décidée ? Vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu'a peint mon esprit, ce tableau qui te ressemble? Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c'est toi. C'est encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles, ces énormes navires qu'ils charrient, tout chargés de richesses, et d'où montent les chants monotones de la manœuvre. Ce sont mes pensées qui dorment ou qui roulent sur ton sein. Tu les conduis doucement vers la mer qui est l'infini, tout en réfléchissant les profondeurs du ciel dans la limpidité de ta belle âme. Et quand, fatigués par la houle et gorgés des produits de l'Orient, ils rentrent au port natal, ce sont encore mes pensées enrichies qui reviennent de l'infini vers toi.
Ciel brouillé. On dirait ton regard d'une vapeur couvert. Ton œil mystérieux est-il bleu, gris ou vert? Alternativement tendre, rêveur, cruel, réfléchis l'indolence et la pâleur du ciel. Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés qui font se fondre en pleurs les cœurs ensorcelés. Quand, agités d'un mal inconnu qui les tord, les nerfs trop éveillés raillent l'esprit qui dort. Tu ressembles parfois à ces beaux horizons qu'allument les soleils des brumeuses saisons. Comme tu resplendis, paysage mouillé qu'enflamment les rayons tombant d'un ciel brouillé. Ô femme dangereuse, ô séduisant climat, adorerais-je aussi ta neige et vos frimas, et saurais-je tirer de l'implacable hiver des plaisirs plus aigus que la glace et le fer.
L'aube spirituelle. Quand chez les débauchés, l'aube blanche et vermeille entre en société de l'idéal rongeur, par l'opération d'un mystère vengeur, dans la brute assoupie, un ange se réveille. Des cieux spirituels, l'inaccessible azur, pour l'homme terrassé qui rêve encore et souffre, s'ouvre et s'enfonce avec l'attirance du gouffre. Ainsi, chère déesse, être lucide et pur, sur les débris fumeux des stupides orgies, ton souvenir plus clair, plus rose, plus charmant, à mes yeux agrandis, voltige incessamment. Le soleil a noirci la flamme des bougies. Ainsi, toujours vainqueur, ton fantôme est pareil, âme resplendissante, à l'immortel soleil.
Recueillement. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main. Viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années. Sur les balcons du ciel, en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche, et, comme un long linceul traînant à l'Orient, entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche.
Je suis dans un état nerveux insupportable, mais je pense à l'horrible avenir et je veux mettre Dieu et la chance de mon côté. Lettre de Baudelaire à sa mère, le 17 juin 1864.
Je t'aime beaucoup, je suis plein de tristesse. J'ai besoin de beaucoup de force. Demande pour moi cette force à Dieu. Peut-être cela m'aidera-t-il à la trouver. 3 septembre 1865.
Les paradis artificiels. L'auteur a remarqué que la mort de ceux qui nous sont chers et généralement la contemplation de la mort affecte bien plus notre âme pendant l'été que dans les autres saisons de l'année. Le ciel y paraît plus élevé, plus lointain, plus infini. Les nuages, par lesquels l'œil apprécie la distance du pavillon céleste, y sont plus volumineux et accumulés par masses plus vastes et plus solides. La lumière et les spectacles du soleil à son déclin sont plus en accord avec le caractère de l'infini. Mais la principale raison, c'est que la prodigalité exubérante de la vie estivale fait un contraste plus violent avec la stérilité glacée du tombeau. D'ailleurs, deux idées qui sont en rapport d'antagonisme s'appellent réciproquement, et l'une suggère l'autre. Ainsi, l'auteur nous avoue que, dans les interminables journées d'été, il lui est difficile de ne pas penser à la mort. Et l'idée de la mort d'une personne connue ou chérie assiège son esprit plus obstinément pendant la saison splendide. Il lui sembla, un jour, qu'il était debout à la porte de son cottage. C'était, dans son rêve, un dimanche matin du mois de mai, un dimanche de Pâques, ce qui ne contredit en rien l'almanach des rêves. Devant lui s'étendait le paysage connu mais agrandi, mais solennisé par la magie du sommeil. Les montagnes étaient plus élevées que les Alpes, et les prairies et les bois situés à leurs pieds infiniment plus étendus, les haies parées de roses blanches. Comme c'était de fort grand matin, aucune créature vivante ne se faisait voir, excepté les bestiaux, qui se reposaient dans le cimetière sur des tombes verdoyantes, et particulièrement autour de la sépulture d'un enfant qu'il avait tendrement chéri. Cet enfant avait été réellement enseveli ce même été. Et un matin, avant le lever du soleil, l'auteur avait réellement vu ces animaux se reposer auprès de cette tombe. Il se dit alors, il y a encore assez longtemps à attendre avant le lever du soleil. C'est aujourd'hui dimanche de Pâques. C'est le jour où l'on célèbre les premiers fruits de la résurrection. J'irai me promener dehors. J'oublierai aujourd'hui mes vieilles peines. L'air est frais et calme. Les montagnes sont hautes et s'étendent au loin vers le ciel. Les clairières de la forêt sont aussi paisibles que le cimetière. La rosée lavera la fièvre de mon front. Et ainsi, je cesserai enfin d'être malheureux.
Lettre de Baudelaire à sa mère, 17 février 1866. Quand retrouverai-je l'activité d'esprit et le plaisir de vivre? Je n'en sais rien.
Montage de texte composé par Maïlys Besserie. Avec Clément Bresson, Emmanuel Lafont et Arthur Igual. Réalisation Christophe Hoquet. Conseillère littéraire Caroline Oisana. Assistant à la réalisation Pablo Valero. Équipe technique, Antoine Viossa et Jason Taous.